France Culture.
Lorsque l'on écrit, il faudrait mettre la vérité entre parenthèses pour l'empêcher d'exploser. Xavier Mauméjean, rien ne sortira d'ici. Vous êtes comme dans un rêve grotesque, Julien Lesquiera. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre accourt les ombres qui l'illustre, qui hante le palais littéraire, celle de l'américaine Anaïs Nin, escapade mystérieuse mise en scène par Xavier Mauméjean dans un Paris d'après-guerre hanté par les figures d'Antonin Artaud, de William Seabrook et d'Henry Miller et du psychanalyste René Alindy. Celle de Marcel Proust, dont l'étrange Monsieur Lambert reconstitue jusqu'à l'absurde le quotidien confiné et la vie de couple avec Céleste. Chronique en second temps d'émission, signée Fleur Hopkins Loferon et Hubert Prolongeau. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui va se livrer ce soir à son sport préféré, invoquer les ombres et faire ressurgir les fantômes. Et ce soir, ce seront deux illustres fantômes de la mémoire littéraire et de la mémoire parisienne. Anaïs Nin, connue surtout en France pour son extraordinaire journal, paru dès les années 70 aux éditions Stock, et Marcel Proust, bien connu de nos services. Je serai en compagnie de Xavier Mauméjean.
Bonsoir.
Mais comment va-t-il ? Il y a bien longtemps qu'on ne vous a vu.
Mais il va bien.
Qu'a-t-il fait pendant toutes ces années ?
Eh ben, il a pensé à revenir au mauvais genre et voilà. Il y est, voilà.
Ben, il est content. Donc,
il est ravi.
Et nous sommes tout à fait comblés de le revoir. Première venue à l'émission de Julien Lesquiera. Bonjour.
Bonsoir.
Alors, vous êtes avec nous pour Les Prix littéraires, EPRIS, aux éditions Le Dilettante, un livre entièrement consacré à Marcel Proust, mais selon un mode très très particulier.
Oui, un vrai faux Marcel Proust.
Alors
hein.
Voilà, de quel Marcel Proust s'agit-il et surtout, de quelle manière vous avez eu de le ressusciter, de le faire vivre?
Alors, pour moi, c'est le Marcel Proust que j'imagine, le Marcel Proust fantasmé. Depuis sa disparition, depuis qu'il est devenu une légende. Et donc l'idée, c'était justement de travailler ce mythe et avec tout ce qui peut faire peur et aussi dedans. Quoi.
Ah oui, très habilement travaillé. D'ailleurs, on est entre le tour opérateur et puis le thriller littéraire assez angoissant. Donc on va en parler, c'est aux éditions Le Dilettante. Et la semaine des quatre jeudis de Xavier Mauméjean sur Anaïs Nin, c'est chez Alma Éditeur. Je serai entouré ce soir du point armé de Dieu.
Lui-même.
Hubert Prolongeau.
Bonjour.
Comment va-t-il ?
Ça va bien, merci.
Alors le point armé de Dieu, c'est le nom du roman que vous sortez aux éditions du Seuil,
le 16 janvier.
Le 16 janvier.
Et qui évoque les débuts de l'église mormone.
Donc une sorte de western
tout
mystique.
Voilà, exactement.
Voilà,
de la sueur
et du sable.
Comble. Et des Indiens.
Voilà, et bien écoutez, c'est donc en janvier. Et ce soir, avec vous, on va aller à la rencontre de Proust et d'Anaïs Nin. Et Fleur Hopkins Loferon, bonsoir.
Bonsoir François.
Pareil, dernière actualité. Vous ne sortez pas de roman au mois de
janvier ? Non,
de
jamais la fiction.
Mais un essai,
mais
je
deux
crois.
Essais tout bientôt, le body voilà. Horror et la dark romance, donc typique mauvais genre.
Voilà, tout à fait votre secteur, je dirais, de prédilection. On va commencer cette émission en écoutant la voix d'Anaïs Nin.
Oui, ça, c'est ce que j'appelle la circonstance du rêve qui crée la vie. Alors, j'avais d'abord été voir la maison de Maupassant à Etretat. Et la tempête avait apporté un bateau de pêcheur dans le jardin et l'avait déposé là. Il était resté là en employé pour garder les choses de jardinage. Et alors j'avais demandé à mes hôtes si je pouvais passer la nuit là. Ils m'ont dit non, c'est tout plein de toutes sortes de choses du jardin, c'est pas possible. Alors j'ai rêvé qu'on me laissait dormir dans le bateau et que le bateau faisait un grand voyage par la Seine jusqu'à pendant 20 ans. Comme j'ai toujours aimé les voyages. Alors ce rêve-là est devenue vraiment une obsession et j'ai toujours dit que le rêve servait simplement à vous dire ce que vous voulez faire. Alors j'étais assise au café, j'ai vu un journal qui disait péniche à louer. J'ai été voir et c'était la péniche de Michel Simon qu'il avait construite pour y habiter avec ses singes. Et il m'a raconté l'histoire des singes. Les singes fuyaient dans les quais, effrayaient tout le monde. Alors il a dû prendre une maison à la campagne et il louait la péniche. Certes, ça avait un sens symbolique, poétique, c'est hors de la réalité, ce n'est pas une maison, ça flotte, ça voyage. Ça correspondait à vraiment à ce que j'aimais le plus. Et le soir, je pouvais m'imaginer que je voyageais, parce qu'on entendait, vous savez...
Le clapotis des vagues, de l'eau,
on pouvait s'imaginer qu'on faisait des grands voyages. Ce n'était pas un grand voyage, c'était au Pont-Royal.
Voilà la voix d'Anaïs Thine. Alors, c'est l'homme de la remise en scène, justement, là, des personnages historiques, Xavier Mauméjean, avec Freud, Kafka, Houdini. La dernière fois que vous étiez venu, c'était pour la guerre d'Espagne, avec une singulière histoire autour d'un jeu de hasard dans une époque où, effectivement, le hasard et la providence comptaient beaucoup. Et là, c'est Anaïs Thine, donc on vient d'entendre. Elle a été très célèbre dans les années 70, quand Stock a publié les tomes de son journal. Elle est passée à l'époque chez Bernard Pivot. Elle était vraiment apparue, là, comme ça, comme une espèce de témoin de toute une époque, avec son amitié pour Artaud, qui à l'époque était une lecture et une référence, et puis surtout pour Henry Miller. Qu'est-ce qui vous a amené vers Anaïs Thine, Xavier Mauméjean?
En fait, c'est ce qui m'a ramené à Anaïs Thine. Je pense que ici, on a tous des souvenirs de son journal. Elle a été oubliée. Je pense que elle incarne une sorte de liberté de la femme, mais d'une liberté qu'elle définit que pour elle-même, son discours, son théorie, son manifeste. Et je trouve intéressant qu'elle évoque ceci à une époque troublée, la sienne, qui peut-être fait beaucoup écho à la nôtre. Dans sa libération individuelle, singulière, elle parle pour personne d'autre. Par exemple, elle va parler à Berkeley, elle est accueillie comme une héroïne, elle envoie balader toutes les féministes. C'est pourtant ce qu'elle dit, c'est ce qu'il fallait dire à ce moment-là. Mmh. Et je trouve cette liberté jusqu'au boutiste qui méritait d'être dite aujourd'hui.
Hubert, prolongeons.
Il y a une évolution. Donc, votre livre est un roman biographique, je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Il y a une évolution dans le traitement des biographies qui consiste au cinéma, dans les très laidement appelés biopics, comme en littérature, à analyser un personnage à travers des fragments de sa vie qu'on prend et qui sont censés être révélateurs de toute une vie, plutôt que de relater une vie dans ses détails. Oui. Pourquoi vous avez fait ce choix, vous, et qu'est-ce qui, dans ce que vous avez choisi d'Anaïs Thine, vous paraît particulièrement révélateur de ce qu'elle était?
Alors, la réponse, elle est double. La reconstitution patiente qui vise, sans l'atteindre, à l'exhaustivité, j'avais fait ça avec Henri Dargaud, parce qu'il y avait une nécessité.
Alors,
donc,
figure de dessinateur solitaire, de peintre solitaire de Chicago.
Et là, il y avait un besoin, justement, de remplir des vides. Et peut-être que chez Anaïs Thine, le trop-plein de son journal, parce qu'elle écrit tout, elle écrit sur tout, méritait peut-être, pour une fiction en tout cas, d'en prélever des fragments, et de recomposer d'ailleurs des fragments entre eux.
Fleur ?
Oui, est-ce qu'à travers elle aussi, Xavier, c'est pas un peu la condition d'écrivain aussi, comme un miroir retourné vers vous-même ? Je pense à une citation tout à fait délicieuse que je vais citer, parce que je pense qu'elle fait aussi beaucoup écho à notre invité suivant. « Les écrivains ont deux vies, l'une qu'ils mènent avant d'en devenir les témoins, elle ne leur appartient plus. L'autre qu'ils écrivent, il faut d'abord ressentir, puis tâcher de comprendre ce que l'on a vécu. » Donc cette image du dédoublement, elle est constante chez Anaïs Thine, justement, qui lutte entre son image de femme mariée officielle et puis son désir, comme vous l'avez dit, ardent de liberté. On le retrouve aussi dans le livre de notre invité suivant, avec cette duplicité, le jeu du mensonge, etc. Est-ce qu'au fond, Anaïs Thine, c'est aussi un miroir retourné vers vous-même, une écrivaine qui vous aide à mieux penser votre condition d'écrivain ?
Xavier Mauméjean.
Alors, c'est vrai, elle m'aide peut-être à repenser le début de ce que c'est d'être écrivain, se rappeler les hésitations. Je prends Anaïs Thine au moment où elle a publié un livre qui ne s'est absolument pas vendu. Elle pense même qu'elle est à l'origine de la faillite de son éditeur. Sans aller jusque-là, c'est cette hésitation, tout en étant persuadée qu'elle est autrice, qu'elle doit écrire, qui m'a intéressé. Peut-être qu'effectivement, c'est une réflexion sur ce que c'est d'être écrivain ou aujourd'hui de se décider à être écrivain, au pire ou au meilleur, évidemment.
Hubert. L'image que vous donnez d'Anaïs, on a tous une image d'Anaïs Nin, donc qui est liée beaucoup à un certain trouble, à une revendication de la sexualité féminine, à la vie du Paris de ces années-là. Est-ce que cette image publique vous paraît-elle juste? Et vous, dans celle que vous transmettez, qu'est-ce que vous en avez gardé? Qu'est-ce que vous avez voulu modifier? Et quelle part de fiction avez-vous intégré dans votre vision d'Anaïs Nin?
Ben en fait, j'ai intégré très très peu de fiction. Selon un principe qui court depuis plusieurs de mes romans, qui est que si la scène authentique sonne juste, il n'a pas besoin de la réécrire. C'était déjà le cas pour Kafka, évidemment, pour Dini. Et donc là, j'ai pris des éléments, des moments qui me paraissent justes. Mais par exemple, à mes yeux, la scène du Paris lesbien qui est à peine retouchée vaut autant qu'être une femme de banquier quand on suffoque d'être 6 jours sur 7 étranglé par les mondanités. Ce sont deux moments qui sont vécus aussi authentiquement par Anaïs Nin. Cette virée dans le Paris nocturne avec June Miller, grand personnage, et aussi cet engagement avec son mari, banquier de Boston au départ.
Alors Anaïs Nin est madame banquière de Boston 6 jours sur 7, mais le 7e jour, elle devient Anaïs. Sans hésiter, Artaud trouve son chemin dans le dédale des allées étroites. Durant leur progression, on les observe. Même un bébé couché sur un sac à patates semble les fixer. Anaïs n'a pas peur. Il lui arrive certains jeudis de traîner avenue Jean Jaurès pour frayer avec sa communauté de pochards vagabonds qui se tiennent en bas des escaliers, sur le pas des portes ou des bancs. Leur folie est autre, grouille d'hallucination. Elle aime la partager. Et puis aujourd'hui, Artaud marche à ses côtés. Il l'a prévenu, ces gens ne sont pas vraiment de ce monde et empruntent peu les voies normales. Lui est parfaitement à sa place. Chacun ici paraît accroché à sa vue, regard craintif et respectueux. Un Turc en pull jacquard s'incline à son passage. Une vieille, à la robe chamarrée, prononce quelques paroles en yiddish et cherche à lui baiser la main. Artaud fait un pas de côté, comme si son contact pouvait la consumer. Ils parviennent à une sorte de place où sur un terre-plein est dressé le géant. Ses os sont en traverse de chemin de fer, sa peau est faite de déchets empilés, une horloge sans aiguille est son cœur, sa chair est en monceau de chiffons, détritus, casiers de légumes, meubles cassés, débarras de caves liés par la boue séchée, le rebut dont Paris ne veut plus, mais les objets retrouvent propriétaires. Ils ne sont jamais orphelins. Le dieu des chiffonniers, commente Artaud à voix basse. Alors le jeudi, Madame Giller devient Anaïs, redevient Anaïs Nin, c'est-à-dire la fille du pianiste ô combien fantasque ami de Ravel, Joachim Nin, et part explorer Paris, le Paris un petit peu des surréalistes, celui de Jacques Yonnet, le Paris des maléfices, des marginaux, des inclassables ou des déclassés. Et puis là, il se passe des choses. C'est quand même un 4 jeudis qui sont 4 figures aussi. Xavier Mauméjean, il y a le psychanalyste, René Alindy. Alors, Alindy ou Alendy, parce que
Alindy, oui.
Alindy, oui. Le jeudi. Il y a Antonin Artaud, dont oui. Elle a été très amie, et dont elle parle beaucoup dans son journal, et donc vous consacrez beaucoup de temps à Artaud. Et puis, il y a William Seabrook. Alors là, on est dans le mauvais genre emblématique. Mais vous avez, et puis Henry Miller et sa femme June. Donc, vous avez pris quand même ce qui est la quintessence du, je dirais, de l'envers du décor d'Anaïs Nin.
Ah oui, tout à fait. Et en fait, elle marquait elle-même la rupture en changeant dans le train son alliance contre une espèce de d'anneau indien avec des minuscules clochettes. Et
elle était magique.
Oui, oui, elle était Linotte, donc le surnom qu'on lui avait donné quand elle était enfant, ce qui est là aussi un alias, c'est pas ni Madame Giller, ni Anaïs Nin, c'est Linotte, c'est encore un autre personnage. Alors, c'est vrai que chaque figure qui sont authentiques et qui sont souvent décrites dans, à travers des événements réels, incarnent des moments de ce Paris qui est complètement fou. Mais on se retrouve dans ce type de fiction à n'avoir pas grand-chose à faire. Par exemple, le psychanalyste d'Anaïs Nin était à lundi, il lui présente tout de même Artaud en disant « Écoutez, Artaud, pour moi, c'est comme un fils, mais bon, il est sodomite et drogué. » J'aimerais que vous alliez le voir. Donc ça fait des liaisons qui font que on n'a rien à inventer. C'est exactement le ton qu'il faut pour passer d'un personnage à l'autre.
Hubert,
vous, on associe beaucoup Anaïs Nin à Henry Miller, forcément. Et vous, en fait, dans cette galerie de portraits qui l'entoure, vous ne mettez pas Miller en avant. Et au contraire, vous le faites de sa femme June. Et j'aimerais bien que vous nous parliez de June, qui est un personnage qui paraît assez fascinant pour toutes les personnes qui appréhendent le couple Miller et pas seulement la vie d'Henry. Et donc, qui était June Miller et pourquoi, dans votre choix, l'avoir mise en avant plus que son célèbre époux?
Ah bah, je suis très content que vous l'évoquiez parce que c'est quelqu'un qui a été extrêmement maltraité par Henry Miller, qui ont fait une folle irresponsable, incapable de rien, alors que c'est elle qui lui paye le billet quand même pour aller des États-Unis à Paris, c'est elle qui le fait vivre. Et donc j'ai voulu retrouver une June Miller qui ne soit pas la mauvaise image, probablement inventé par Henry Miller et qui n'est pas non plus l'objet de fascination qu'on donne à Anaïs Nin. Et ça aussi, c'est un véritable personnage d'incarnation de la liberté. C'est une femme qui envoie balader Henry Miller et qui, en même temps, devient elle-même, s'impose à Anaïs Nin, fait comprendre à Anaïs Nin ce que doit être une femme.
Fleur?
Oui, alors moi, il faut que je batte ma coupe. Je n'ai jamais lu Anaïs Nin. Donc, ça a été, oui, je me rattraperai.
Vous avez lu Xavier Bonméjean.
Promis. Voilà. Et c'est vrai que ça n'a évidemment rien enlevé au plaisir de lecture. Donc, vraiment, si vous ne connaissez pas Anaïs Nin, lisez le roman de Xavier Bonméjean. Et je me posais donc la question du travail, peut-être, de condensation. À la fois, vous avez parlé du travail biographique, mais comment est-ce qu'on s'empare aussi d'une écriture? Puisque, par moments, dans votre roman, on retrouve des listes, des relevés extrêmement précis. Est-ce que c'est typique d'Anaïs Nin? Est-ce qu'il y a un travail de votre part de condensation de son écriture à elle sans la laisser dévorer la vôtre? Comment on trouve cet équilibre quand on fait un document fictionnel, biographique de ce type-là?
Alors, effectivement, c'est un travail que je mets en avant depuis Kafka, le journal de Kafka. Il fallait trouver l'équilibre entre l'écriture d'origine. D'ailleurs, à la fin des romans, je mets souvent je les remercie pour la parole empruntée. Donc, il fallait prélever dans l'écriture d'Anaïs Nin des pans entiers qui sont simplement décalés ou retravaillés, et pour le reste trouver un ton qui ne fasse pas collage. Effectivement, par exemple pour les listes, je me suis surtout en fait inspiré. Elle fait des listes, mais ce sont des listes domestiques, donc ça m'intéresse beaucoup. Ce sont des listes qui n'ont pas vocation d'écriture, en tout cas vocation de publication, mais qui sont des écrits. Et comme elle ne publie pas à l'époque, on peut les considérer comme des documents qui la font vivre en tant qu'autrice, d'où la nécessité des listes de il faut téléphoner au déménageur, il faut aller à la poste, et listes que l'on trouve d'ailleurs dans son journal.
Julien Lesquera, vous êtes un lecteur d'Anaïs Nin.
Alors, comme dans le... Ouais, moi non plus, je n'ai toujours pas lu Anaïs Nin, mais ça ne m'a pas empêché de lire ce livre avec beaucoup de plaisir. Et moi, il y a une chose qui m'a frappé, qui rejoint une des questions précédentes, c'est de dire à quel point pour Anaïs Nin c'est compliqué d'arracher des moments de liberté face à tant d'obstacles. Et moi, j'y ai vu un parallèle avec l'écriture, qui est pour moi aussi, entre autres choses, c'est que s'arracher des moments de liberté. Je voulais savoir si c'était vous aviez vu ce parallèle ou pas.
Oh bah certainement, oui. Il y a effectivement la nécessité d'écrire quand on peut. Et le problème, c'est que le quand on veut excède largement le quand on peut. Donc, c'est son cas, elle, en tout cas, oui, et souvent le nôtre, bien sûr.
La peste est apparue au tournant du siècle, à l'insu des habitants, telle une myopie qui s'installe sans que l'on s'en avise. Tout le monde s'est retrouvé malade d'imagination, puisque chacun en est doté. Jusqu'alors, d'après Hugo, les gens se souvenaient de choses vécues dont ils conservaient les images. Parfois, ils se permettaient quelques fantaisies, comme déplacer en esprit un troquet du boulevard Raspail à Garges-lès-Gonesse, ou effacer d'un repas familial le vieil oncle encombrant. Ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et puis, sous l'effet de la maladie issue des mondes hors du monde, ces hypermondes, comme les appelle Paul Valéry, l'imagination est devenue créatrice. Elle s'est emparée du contenu des cervelles jusqu'à le déformer et le tordre afin d'en extraire des fictions. Généralement, sans que la personne s'en avise, cela serait demeuré discret si les sécrétions mentales ne s'étaient pas matérialisées en une abondance d'entités faisant de chaque Parisien un roman humain. Depuis, il suffit qu'un quidam parle au comptoir, dans un lit ou à l'assemblée pour que ses fantaisies se répandent.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Oui, Hubert Prolongeau, c'est un des d'autres éléments importants du roman de Xavier Mauvais Genre, La semaine des quatre jeudis chez Alma. Cette idée que l'imagination est une peste, que l'imagination et la fiction dévorent la communauté européenne, la population, dans cette après-guerre des années 20 et 30.
Oui, alors, effectivement.
C'est rare de voir l'imagination taxée de peste.
Ouais. Tout à fait. On sent que, voilà, qu'il y a une espèce de jeu d'attirance, de répulsion face à ça. Et alors, je me demande si c'est une des raisons pour lesquelles Anaïs Nin est tombée un peu dans l'oubli. Fleur et Julien ont avoué, avec une franchise admirable, ne pas avoir lu Anaïs Nin. On parlait de Proust tout à l'heure. Je pense qu'un invité de France Culture qui dirait avec la même franchise ne jamais avoir lu Proust ne franchirait plus jamais les portes de la radio. Pourquoi cette espèce de mythe d'un côté et cet oubli dans lequel est tombée Anaïs Nin? Est-ce que vous avez l'impression que c'est parce que les idées qu'elle a défendues, l'audace de sa présentation, du désir féminin en particulier, ont finalement été rattrapées et sont devenus un peu obsolètes ou démodés?
Je crois surtout que pendant des décennies, on a eu le confort, la facilité d'oublier l'urgence d'une femme comme Anaïs Nin. Je pense que l'époque actuelle, 2025, a besoin de voix comme la sienne et comme d'autres voix. Et on a eu le luxe d'oublier l'urgence, en fait. On a eu le luxe d'oublier la liberté, le combat pour la liberté. Et je pense qu'il était bon de le rappeler, voilà.
Non, mais c'est vrai qu'Anaïs Nin a plus que jamais sa place aujourd'hui. Quand on voit revenir en fanfare Nathalie Clifford-Barnet chez Bartilla, par exemple, ou Rachilde chez Bartilla, et aussi chez Bouquin, voilà. D'autres figures comme ça, qui aux dilettantes, ils ont réédité Nicole Blay, il y a des personnages comme ça qui reviennent comme des aventurières.
Je pense qu'on a peut-être
Alexandra David Néel, mais sous un mode plus urbain et plus...
Oui, je pense qu'on a besoin de celles qu'on connaisse.
Mais ça, c'est des figures emblématiques. C'est des figures...
Non, elles sont oubliées, elles sont même dénoncées en haut lieu, donc... militons pour les sales connasses.
Voilà. Alors, autre aspect, j'aimerais qu'on parle de cette peste-là. Cette peste dont vous parlez, la peste de l'imagination. On sait qu'Antonin Artaud avait fait une conférence et un article célèbre sur le théâtre et la peste. Son théâtre, sa vision du théâtre, le théâtre de la cruauté, devait littéralement se répandre, non pas attirer les gens, mais se répandre dans la foule comme une véritable épidémie et susciter une sorte de révolution profonde dans l'homme et dans la société. Et donc, vous pensez que là aussi, l'imagination après
guerre a littéralement déferlé, et où est-ce que c'est totalement une espèce de vision un peu, alors là, liée au merveilleux scientifique, je parle sous le contrôle de Fleur Hopkins.
Ben, moi, je voulais en fait prendre l'imaginaire du temps, du moment. Là, pour le coup, rester vraiment dans le cadre de l'époque. Je voulais parler du merveilleux scientifique, une tradition que Serge Lehmann, par exemple, et Fleur Hopkins, avant tout, mettent en avant, une belle tradition. Et donc, je voulais les utiliser, non pas comme des référents littéraires, mais comme des outils. Par exemple, dans mon roman, Maurice Renard n'a pas écrit ce qu'il a écrit dans la réalité, mais il a écrit un texte qui répond aux besoins de l'époque, à cette maladie qui déferle. De la même façon, le détournement des hypermondes de Paul Valéry n'est pas un texte de théorie littéraire, mais répond tout simplement à l'ère du temps, à l'ère du moment dans le roman.
Hopkins.
Et tout à la fois, votre roman, Xavier, se close sur une espèce de ridicule. Dantin Artaud, sa conférence est entrecoupée de proutes tonitruantes. Donc, est-ce que c'est une manière aussi mélancolique de dire que l'imaginaire n'a pas réussi à conquérir, tout du moins dans l'imaginaire français, la tout place qu'il mériterait. Donc, vous participez avec ce roman, j'ai le sentiment à la fois de ce qu'on appelle le matrimoine, justement, en valorisant cette figure d'Anaïs Nin, méconnue de moi. Voilà, c'est avoué.
On va vous faire livrer les 27 tomes, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Cette tome du journal.
Mais surtout de fait, il y a presque une nature pamphlétaire, enfin celle de revaloriser aussi tout l'imaginaire français qui a été trop longtemps occulté à travers ce travail de retissage fictionnel de ce qu'aurait pu être l'imaginaire français s'il n'avait pas subi les foudres de certaines revues notamment.
Oui, tout à fait. Oui, c'est un besoin de retour aussi, comme retourner au début d'écriture à travers le personnage d'Anaïs Nin. C'est un roman du retour. Et c'est même d'ailleurs un roman de la fin, puisque j'ai l'intention de ne plus écrire de romans pendant quelques temps. La forme longue...
Qu'est-ce que vous allez faire? Que va faire Xavier Mauméjean?
Aller à la pêche.
À la pêche. Et à la pêche à quoi?
À la pêche. Et écrire des listes comme Anaïs Nin.
Faire des listes, voilà.
La semaine des quatre jeudis de Xavier Mauméjean, un roman donc paru aux éditions Alma. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Irène, ne m'en demandez pas plus, c'est un choix de Laurent Polleret, bien sûr, pour Mauvais Genre ce soir. Mauvais Genre qui reçoit donc Xavier Mauméjean, mais Julien Lesquira pour Les Prix littéraires, alors Les Prix LEPRIS, aux éditions Le Dilettante. Alors Julien Lesquira, on l'avait découvert en 2023 avec formidable roman Mes Vies Parallèles, alors qui lui aussi était une sorte de somme assez vertigineuse, et là on vous retrouve, j'ai presque envie de dire, Hubert Prolongeau, en proie à Marcel Proust.
C'est ça, carrément, en proie sous l'emprise même
de
Marcel Proust et de Céleste Albaret, la servante de Proust, qui intervient dans le roman. Alors, la question qui va sous-tendre tout ça, c'est quand même comment vous est venue cette idée tordue. Donc, n'ayons pas peur des mots, l'un de vos héros, Lambert, copie Marcel Proust, donc vit dans un appartement arrangé comme celui de Proust, qui passe sa vie au lit, il écrit des textes avec des paperoles, il vit avec une servante qui s'appelle Céleste, mais il ne lit pas Proust. Est-ce que ça veut dire que pour vous, le personnage aujourd'hui domine tellement qu'il écrase l'œuvre?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça fait partie de ces rares auteurs qui sont connus par tout le monde sans être forcément lus. Et en plus, qui ont une image qui tient du mythe avec des tas de détails, de la Madeleine principalement. Et que voilà, et ce qui m'intéressait de travailler sur le simulacre, en fait, de ce qu'est le Proust, de tout ce qu'on tourne autour de Proust et qui est souvent très très loin de ce qu'il a écrit, quoi. Donc l'idée est venue comme ça, ouais.
Oui, parce que la question est comment aujourd'hui écrire, alors je ne sais pas non seulement sur Marcel Proust, mais avec Marcel Proust, que faire de Marcel Proust quand on est un écrivain, puisqu'on a à peu près tout tenté, il a été biographié bien évidemment, il a été analysé, suranalysé, hyperanalysé, décortiqué, il a été édité de façon démentielle, il y a qu'à voir la deuxième édition de la Pléiade, édition Jean-Yves Tadié avec les variantes totalement hallucinées, c'est quasi de l'art typographique. Donc on a à peu près fait subir à Marcel Proust tout ce qui est possible pour un auteur du patrimoine. Et puis là, aujourd'hui, il fallait bien trouver quelque chose. Donc c'est une manière de l'exorciser aussi, peut-être, Julien Esquira.
Ben oui, il ne reste plus qu'à le trahir, qu'à l'enfermer dans une chambre et finalement à annoncer quelque chose et puis à s'en détourner. Quoi, parce que très très vite, dans le roman, on ne parle plus de Proust. Et même l'idée, son idée s'évapore assez vite. Et en fait, cette idée, le Proust a juste servi à attirer le narrateur dans un piège qui, lui, à la fois entraîné par sa vanité et par cet appétit proustien, se retrouve enfermé avec une Céleste encore plus fausse que le Proust. Quoi.
Flore Hopkins ?
Oui, peut-être que la manière de sortir de Proust, c'est justement plutôt de jouer la carte de Misery, parce que c'est un roman qui m'est venu en tête, en vous lisant Misery de Stephen King, hein, dont on connaît bien le récit. C'est une fan absolue de la saga Misery qui va kidnapper Paul Sheldon et qui finit par lui briser les jambes pour s'assurer qu'il réécrive, enfin, qu'il ramène à la vie Misery pour qu'elle connaisse de longues aventures. Et je me posais la question, vous parliez du simulacre, c'est un mot qui revient sans cesse dans votre roman. Il y a aussi une autre expression, c'est celle de la posture d'écrivain. Comment est-ce que justement vous et votre personnage parviennent à sortir de cette fameuse posture d'écrivain qu'il a en horreur, notre narrateur? Il ne veut surtout pas faire semblant d'être écrivain, il veut être authentique. Comment est-ce qu'on peut être un authentique écrivain? Vertigineuse question, évidemment.
Eh bien, peut-être qu'on ne peut pas, quoi. C'est ce qu'apprend le narrateur, justement. Et pour moi, le narrateur, je pense qu'il est assez dupe de lui-même quand il dénonce les postures, parce que pour moi, il est lui-même dans une posture qui est celle de vouloir sauver les gens en racontant leur histoire, celle de penser que en racontant leur histoire, il pourra les aider, en les faisant parler. Et donc oui, moi je crois que quelle que soit sa lucidité, on finit toujours par être prisonnier de sa posture d'écriture, quoi. À part au moment où on est vraiment seul en train d'écrire et où on ne peut plus trop se raconter l'histoire. Et après, il y a un moment où on est toujours face à des faux semblants, sa propre vanité, ses espoirs souvent déçus. Et donc oui, je crois que pour moi, le livre, c'était ça aussi. C'était de voir plusieurs personnages pris à leur propre piège. Et d'ailleurs, pour moi, je ne sais toujours pas, même après l'avoir fini de l'écrire depuis longtemps, qui manipule qui dans ce huis clos, quoi.
Donc, Julien Esquira, vous travaillez d'abord et avant tout sur la mythologie proustienne, c'est-à-dire quasiment les produits dérivés, puisque la couverture de Pierre Hyssen nous montre la robe de chambre, un peu balsacienne. Il y a quasiment aussi une cafetière ou une théière. Il y a la Madeleine, bien évidemment. Il y a une sorte d'appareil un petit peu de chronomètre là pour prendre l'attention, il y a les paperoles, il y a le porte-plume, donc on est véritablement dans la mythologie matérielle d'un écrivain. Tous les grands écrivains en légumes, il y a le plaid de Mallarmé, la cafetière de Balzac, bon, on connaît, et la pipe d'opium de Baudelaire. Donc là, vous partez de ça et effectivement, vous mettez en place une espèce de machine infernale littéraire que moi je référerais plutôt à du cinéma. On pense au Locataire de Polanski ou encore à certains films de Buñuel, c'est-à-dire une sorte de procédure perverse et extrêmement compliquée qui dévore et qui, d'une certaine façon, neutralise les personnages. Et votre héros cède à une proposition qui lui est faite par un groupe d'amis, le héros est écrivain en difficulté, il cède à un groupe d'amis d'aller voir, mais un petit peu comme on irait dans une sorte de tour opérateur, une attraction. Et cette attraction, c'est un appartement dans lequel, eh bien, une sorte de clone de Marcel Proust joue en permanence le rôle de son, pour pas dire de son modèle, mais de son icône, de son dieu, de sa divinité, avec une reconstitution du décor, les objets sont là, l'odeur est là, le confinement, la lumière, tout est là, et puis il y a la fameuse Céleste qui prend en charge le visiteur, avec cette espèce d'indifférence, un peu comme la guide d'un musée qui ne sera pas spécialement concernée parce que le musée montre, et puis après, on découvre le personnage de Lambert. Est-ce que vous avez quand même... Quelle est un peu l'intention? Parce que là, je veux dire, il y a quand même une dimension presque fantastique et policière. C'est presque un thriller, ce roman, Julien Esquira.
Alors, je n'ai pas écrit forcément l'intention du thriller. Quand je suis parti dans l'écriture, je voulais d'abord écrire sur Lambert. C'était Lambert qui m'intéressait. Et puis, quand j'ai écrit les premières scènes entre Céleste et le narrateur, j'ai vu que Céleste était plus intéressante que je ne l'avais imaginé, plus retorse, plus complexe, et qu'il fallait que j'insiste là-dessus. Et donc, après, oui, plus Céleste s'imposait, plus il fallait que les choses deviennent sombres, que la tension se maintienne le plus longtemps possible. Et que le huis clos se referme.
Oui, parce que là effectivement, on est dans une espèce de vivarium, mais d'aquarium en tout cas, où les personnages apparaissent comme ça, comme captifs d'une sorte de nasse, de piège, et ils circulent comme ça sans trop savoir. Et on ne sait pas. Alors moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé, au moins pour. On va pas tout dire, parce que quand même, on n'est pas là pour ça. On est là pour, au contraire, entretenir le mystère et non pas pour l'éventer ou le dévoiler. Mais on a quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans tout ça. C'est que on joue le jeu, mais le jeu, on n'est pas dupe. C'est très étrange, ce sentiment d'être à la fois piégé, mais un peu victime consentante.
Ben oui, c'est exactement ça. Il faut accepter cette conscience que tous les personnages pourraient s'échapper assez facilement de cette situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraintes physiques qui les empêchent de sortir de cet appartement, de sortir de cette emprise. Et après, c'est aussi toute la question de l'emprise. C'est-à-dire que on voit des gens tout à fait conscients qui sont dans une situation qui ne leur convient pas et qui y restent et qui parfois y prennent une sorte de plaisir étrange. Et puis plus la situation s'avance vers le mal et plus ils sont finalement coincés, quoi.
Donc c'était ça, de sentir, c'est le tour d'écrou.
Oui.
Il y a un côté un peu Henry James, une espèce de procédure comme ça qui se met en route et on sait très bien qu'on n'en sortira pas. Quelques jours plus tard, je me tenais à nouveau devant la porte de cet immeuble que j'ai ouverte avec peine, forçant un peu avec mon épaule avant de monter jusqu'au troisième étage. Juste avant de sonner, j'ai eu quelques secondes d'hésitation. Puis, j'ai soufflé un grand coup et, d'un doigt tremblant, j'ai actionné le vieux mécanisme. Un son rouillé s'est échappé et pendant le court instant de silence qui s'est ensuivi, j'ai entendu mon cœur qui s'emballait dans ma poitrine, puis j'ai reconnu le pas boitillant de Céleste et j'ai su alors, avec une précision étonnante, que tout allait bien se passer. Comme la dernière fois, rien n'a trahi sur son visage la surprise d'une telle visite. Après un bonjour énergique, elle s'est aussitôt effacée de l'entrée pour me laisser passer, puis j'ai senti ses mains au-dessus de mes épaules, prêtes à se saisir de mon manteau. J'ai bafouillé quelques mots pour justifier ma présence, mais elle n'a pas semblé s'en soucier. Tout lui semblait une nouvelle fois si normal. « Je vais prévenir Monsieur Lambert de votre visite. » Elle s'est engagée dans le couloir sombre. Elle portait un uniforme différent de la dernière fois et ses cheveux bruns étaient aussi arrangés d'une autre manière, dégageant un peu sa nuque. La vision de ce carré de peau pâle juste au-dessus du col de son chemisier m'a un peu plus troublé. Et j'ai baissé les yeux de peur qu'on ne devine l'insistance de mon regard. Voilà, c'est au début du roman de Julien Lesquera, Les prix littéraires aux dilettantes. On rentre dans la nasse. C'est quand même, on a quand même le frisson délicieux, Hubert Prolongeau, que tout cela a l'air bien routinier, bien paisible, cosy, comme on dit aujourd'hui, mais que bon,
ça ne va pas se passer, ça ne va pas durer comme ça. Et ça ne va pas se passer comme ça à propos d'un autre personnage qui, peut-être moins mythique que Proust, mais on retrouve quand même beaucoup en littérature, et en citant Le Tour d'écrou, ben vous l'avez introduit, c'est le personnage de là où le domestique diabolique et dominateur, on le retrouve donc un peu dans Le journal d'une femme de chambre, même si c'est le livre est plus de critique sociale. Dans des films comme La Bonne de Sampéry, comme La main sur le berceau, film assez mauvais mais qui a été refait cette année, comme dans la série de Night Shyamalan Servante. Donc cette idée du ou de la domestique qui domine en fait son maître, renverse les rapports et en fait un peu ce qu'il veut. Est-ce que vous êtes référé aussi à cette figure mythique, enfin mythique, très très récurrente, et pourquoi vous l'avez introduite là ? À travers Céleste, dont les mémoires même ne montrent pas tout à fait la même diabolisation.
Non, pas du tout. Ici, c'est une trahison. La pire trahison, c'est sans doute envers Céleste. Ouais. Et moi, j'ai pas forcément vu Céleste comme voilà le symbole d'une servante avec une idée de pouvoir, de lutte de classe, de choses comme ça. Même s'il y a quand même ça en fond forcément. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était l'idée de ce personnage que le narrateur découvre et qu'il l'imagine tout de suite comme une victime, et qu'il, fort de cette idée, ne peut plus sortir de cette première impression qu'il a eue, et avec voilà l'idée ensuite que est-ce qu'elle est victime ou coupable. Moi, jusqu'au bout, je suis pas convaincu. C'était plus ça moi qui m'intéressait que la figure même de la servante, parce qu'en plus elle est une servante un peu particulière qui, de son propre aveu, n'est pas très douée pour ça, pour la cuisine, pour toutes ces choses là et qui est arrivée dans ce métier un peu par hasard et y est restée peut-être condamnée. Mais donc ouais, c'était plus cette idée là qui m'intéressait.
Fleur.
Oui, ne soyons pas trop durs avec Céleste. Moi, je l'ai beaucoup aimée et elle m'a fait penser à d'autres figures, féministes même, que ce soit Pénélope qui, tous les soirs, va détricoter sa tapisserie pour s'assurer qu'elle n'épouse jamais les hommes auxquels elle est promise. Et on voit bien qu'elle tient par le récit de son enfance et de son adolescence absolument captive le narrateur. Et une autre figure, évidemment, chez Sheherazade, qui elle aussi retarde sans cesse sa décollation en racontant des histoires. Donc moi, j'ai eu beaucoup d'affection pour Céleste et elle m'a plutôt rappelé ce qui se pratique aux États-Unis, ce qu'on appelle le female rage, des récits dans lesquels les femmes, eh bien, elles font exploser leur rage, leur colère. Et ici, on voit bien que Céleste, elle maîtrise la situation. Elle est bien davantage dominatrice et tricoteuse de récits. C'est pas pour rien que c'est une magicienne. Elle maîtrise vraiment l'attention du narrateur. Moi, j'ai beaucoup aimé Céleste. C'est vraiment ce qui m'est resté en tête après la lecture.
Oui, bah moi je l'aime beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup aussi. Et effectivement, je suis très content de cette lecture et de cette idée de Céleste qui maîtrise son récit. Parce que parfois, dans d'autres lectures, les gens ils voient une maladresse, ils voient la façon dont elle ne sait pas se raconter. Et que moi, je sais que quand le narrateur lui reproche de ne pas savoir se raconter, elle sait très bien ce qu'elle fait, quoi. Elle sait très bien ce qu'elle peut donner, ce qu'elle peut refuser au narrateur et ce qu'il attend. Et d'une certaine manière, oui, c'est de cette manière qu'elle dicte le rythme de l'histoire.
Xavier Mauméjean.
Oh ben, c'est un roman très audacieux parce que la facilité aurait été de décliner des éléments proustiens, ce que vous interdisez tout de suite, même le personnage qui est le double qui n'en est pas un de Proust. Non, mais j'ai lu une biographie, c'est bon, ça ira. Mais c'est un huis clos. Qui s'interdit la facilité justement en refusant pause, mais qui en même temps ouvre des fenêtres parce qu'il est dit à un moment que, bah, attendez, c'est absolument pas étonnant, il y a deux Balzac à Paris, un Flaubert, enfin, et surtout, il y a un Céline évidemment en banlieue, donc c'est un huis clos qui arrive à ouvrir comme ça des portes du bizarre dans Paris, c'est assez épatant, oui.
Ben oui, parce que vous jouez quand même avec une réduction du personnage de l'écrivain, une sorte d'attraction un petit peu la visite guidée, quoi. C'est aussi une vision de la littérature un peu désespérée. C'est-à-dire que, en définitive, que reste-t-il de l'écrivain? Quelques objets fétiches, fantoches, et puis une sorte de silhouette indéfiniment reproductible, produit dérivé, quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est peut-être que la postérité d'un écrivain se résume à devenir un personnage, quoi. Qu'il reste plus que ça et que finalement ouais dans cette liste aussi je me suis peut-être laissé la porte ouverte à faire d'autres romans, ça peut être déclinable.
Oui, on
à l'infini,
a Flaubert quoi. Qui arrive
déclinable à l'infini.
Nous ne raconterons pas la fin, c'est promis. Pour faire son grand œuvre il faut souffrir comme le narrateur?
Parce
qu'il semble le croire, que peut-être cette expérience de la souffrance, de l'emprise, ça va lui permettre d'accoucher de quelque chose dont il n'était pas capable précédemment.
Non. Ça fait partie justement des vanités de penser qu'il faut souffrir. Alors après, il y a peut-être des écrivains qui souffrent, mais je ne pense pas que ce soit une condition nécessaire, et heureusement d'ailleurs.
Et vous n'avez pas souffert?
Non.
En revanche, il y a aussi un amour pour la littérature énorme, et que vous rapprochez un peu l'amour-passion de la passion pour la littérature. Est-ce que pour vous, ça va de pair?
Oui, je pense que oui. De toute façon, il y a quelque chose de déraisonnable dans le fait d'aimer de lire, de passer autant de temps à lire, de se passionner pour des choses dont...
Précisons d'ailleurs que vous êtes libraire de profession.
Oui,
tout à fait. Ce qui est quand même une manière d'en rajouter encore.
Oui, mais être libraire, c'est peut-être justement ce qui va contrer la passion, parce que là, on est dans des choses beaucoup plus concrètes.
Oui, et la manutention.
C'est ça,
la
gestion des stocks.
Quand on a déplacé trois cartons de livres, on a une idée plus... Et donc oui, après oui, non, par rapport à la passion, je sais, oui, effectivement, oui, c'est cette idée aussi de quelque chose qui est tout à fait inutile et dont pourtant on ne peut pas se passer, quoi.
Avec une écriture quand même qui est assez étrange, il y a une espèce de... je trouve que l'écriture ressemble un peu aux propos, c'est-à-dire qu'il y a des phrases corridors. C'est Dario Argento qui disait qu'étant enfant, dans l'appartement de ses parents, il y avait un très long corridor, et la nuit, en pyjama, des fois, ça lui arrivait de remonter le corridor vers une lumière. Bon, son film est une méditation de toute une vie sur le corridor de l'appartement familial. On a un peu l'impression, chez vous aussi, qu'on remonte un corridor, que les phrases suivent comme ça une espèce de parcours un peu incertain et angoissant. Ça, c'est des phrases très longues.
Oui.
C'est un côté boa. Hein, c'est un peu ça.
Oui. Et puis moi, je voulais donner l'idée de quelque chose d'un peu lent à venir, quoi, de pas qui soupçonne un peu des choses de plus en plus, mais voilà, mais qui reste toujours dans cette idée de lenteur.
Mais c'est un roman à digestion lente.
C'est ça, oui, ça, un peu où on s'enlise, on va dire. Oui.
De marécage. Mmh. Hubert Prolongeau.
Vous évoquez
dont les paroles sont
voilà sont éparpillées dans ce studio. Non, dans ce rapport amoureux au livre, il y a un moment l'autodafé quasiment comme un geste amoureux. Et ça, j'ai trouvé ça très très étonnant comme idée quand Céleste brûle des pages. Comment ça vous est venu cette idée?
Oula. En fait, c'était plus l'idée de faire table rase, quoi, pour Céleste, de faire table rase de Lambert pour laisser la place à quelqu'un d'autre, et pour... Il n'y avait pas forcément plus de symbolique que ça, dans mon idée, dans le fait de brûler ses papiers.
Parce que vous prenez le geste le plus ennemi du livre,
oui,
pour en faire une espèce de création littéraire.
Mais c'était pas... Ouais, c'était pas, moi, je ne l'ai pas vu comme ça, moi.
Julien Lesquira, Les prix littéraires, c'est aux éditions Le Dilettante.
Oh,
peu de soul quand même par Laurent Polleré ce soir sur Mauvais Genre. Alors, chronique au pluriel, ça veut donc dire que chacun va parler. Voilà. Hubert Prolongeau, parlez.
Eh bien moi, je vais vous inviter, François et nos amis ici présents, et nos multiples auditeurs, à une espèce de résurrection, celle de Constantin le Grec. Qui
Constantin
le Grec? Le savez-vous? Eh bien Constantin le Grec est un photographe marseillais qui est né en 1998, donc il y a presque 30 ans, sous la plume à la fois prolixe et chaleureuse de Gilles Del Papas. C'est un photographe qui est un héros parfait, en ce sens qu'il est toujours prêt à s'enflammer pour des causes qui le méritent, et pourtant qui est touchant par ses faiblesses, ses doutes, ses amours parfois chaotiques, son attachement pour son fils, un photographe dont les aventures, démarrées avec le baiser du Congre, se sont poursuivies sur 24 épisodes jusqu'en 2017, date du dernier paru, mais non du dernier écrit, puisque Del Papas en a encore quelques-uns, trois je crois, dans ses tiroirs. Et avec une ambition remarquable, les éditions Avalon ont prévu de republier tous les Constantin dans l'ordre chronologique, les 24 donc, à raison de un par mois jusqu'en 2027, ce qui fait un catalogue éditorial presque équivalent à celui de Fantomas, dont on sait que Souvestre et Alain pondaient numéro par mois. Pourquoi cette titanesque entreprise en vaut-elle la peine? Parce que Constantin, c'est Marseille. Sans se laisser intimider par l'ombre un peu écrasante de Jean-Claude Izot, Gilles Del Papas a vite incarné le polar marseillais, d'abord parce qu'il charrie une espèce de générosité très méditerranéenne, un peu à la Guédi Guian, ensuite parce qu'il parsème ses romans d'un patois marseillais extrêmement savoureux, que mon absence d'accent m'interdit d'imiter à l'antenne, mais qui mérite vraiment qu'on s'y plonge. Le premier volume réédité s'appelle donc « Le royaume de Degain ». Degain veut dire « personne » en marseillais. Et le troisième s'appelle « Pleure pas, le Mistral se lève ». Et je trouve que tout Constantin, son humour et sa discrète poésie sont dans ce très joli titre.
Aux éditions Avalon, 24 épisodes.
24, oui. Et
une vie mensuelle.
Non mais c'est assez grisant comme idée de se dire qu'il y a une vie d'écriture quasiment qui va comme ça être ressuscitée en quelques mois.
Xavier Mauvaisjean, vous vous sentiriez de faire justement, de prendre un petit peu ce pari des Jean Rey, des Souvestre et Alain, de faire tous les mois avec un héros une sorte de...
Alors, ce serait très difficile, mais j'ai déjà pour cette auguste maison adapté Fantomas.
Ah ben ça, non, bien sûr. Ça, c'est vrai, vous avez une œuvre radiophonique, tout à fait. Mais non, vous ne seriez pas l'homme de la... du roman feuilleton.
Non, je ne suis pas un homme de suite.
Ouais.
Non, pas de feuilleton.
One shot.
Oui.
Très bien. Une autre recommandation, Hubert Prolongeau, non?
Non, rien, là ça a été, ouais, ça a été une espèce voilà, d'envie de redonner vie à cette œuvre qui était un petit peu tombée dans l'oubli.
24 épisodes des aventures de Constantin de Del Papas, c'est aux éditions Avalon. Fleur, c'est à vous.
Je viens sauver Hubert, j'ai deux recommandations à mettre sous le sapin. Alors la première, ça concerne une petite polémique qu'il y a eu en septembre. Une polémique autour de Hurlevent, l'adaptation cinématographique qui va sortir sur nos écrans en février, réalisée par Emerald Fennell, qu'on connaît bien pour Saltburn, un thriller très sexy. Et donc le public avait vraiment déprécié le fait que les hauts de Hurlevent d'Emily Brontë puissent être sexy, pas assez gothique et beaucoup trop contemporain. Alors moi je vous propose de vous replonger dans le texte original. Il vient de paraître chez Kalidor, les hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, avec les illustrations absolument sublimes d'Aurélien Polis, qu'on connaît bien dans le milieu de la science-fiction, puisqu'il est vraiment un client régulier du Bélial, de Folio voilà. SF. Et donc vraiment, ces illustrations sont plus que sublimes, elles sont torturées, elles sont passionnées, elles sont tragiques, et c'est tout à fait à l'image, évidemment, de l'histoire d'amour terrible qui unit Catherine à Heathcliff. Donc à mettre sous le sapin, c'est obligatoire.
Oui, et on avait reçu l'éditeur de Kalidor pour parler d'Arthur Macken, puisque cette collection de beaux livres illustrés a honoré Arthur Macken, et très récemment d'ailleurs Dracula dans la traduction.
Et Frankenstein.
Et Frankenstein,
oui.
Absolument.
Et James Clavell avec Taipan, voilà. et le serpent Ouroboros.
Donc allez sur le site de Kalidor.
Deuxième recommandation incontournable aussi, il s'agit de l'essai Viande, chair et corps vidéoludique, publié aux Presses universitaires de Rennes et écrit par Guillaume Béchelier, alors qui est à la fois un artiste plasticien, mais surtout un chercheur spécialisé dans les jeux vidéo d'horreur. Et avec cet essai, il nous propose de réfléchir au statut singulier que tient la viande dans les jeux vidéo, mais aussi dans le jeu vidéo d'horreur. Alors il nous parle de viande crue, cuite, séchée, hachée, de viande, de matière brute, de muscles, de fibres. Il y a vraiment un panorama et un menu même qui est pas très alléchant pour moi qui suis vegan. Mais bon, j'ai supporté la lecture et j'ai trouvé même l'essai passionnant.
On salue votre héroïsme.
Et ce que nous raconte profondément Guillaume Béchelier, c'est que la chair, en tant que joueur de jeux vidéo d'horreur, elle nous ramène à notre condition d'animal et aussi à notre mortalité. Et ce qui fait vraiment le sel de cet essai, c'est qu'il va à la fois piocher dans des jeux vidéo incontournables, que ce soit Blasphemous, Resident Evil, Outlast, Little Nightmares et beaucoup de jeux indépendants. Je donnerai juste un exemple d'une analyse très vivifiante. C'est celle que dans beaucoup de jeux standards, eh bien, vous allez manger des petits bouts de poulet ou des fruits pour regagner votre vie. Là où dans les jeux vidéo d'horreur, c'est plutôt des medikits, puisque la chair, c'est celle qu'on... Des medikits, c'est dans Resident Evil. Par exemple, vous avez une herbe rouge que vous mêlez à une herbe verte pour regagner votre santé. François, il faut que vous jouiez à ça et surtout à Outlast qui fait très très peur. Mais toujours est-il que je recommande très chaleureusement cet essai qui est absolument vivifiant et qui fait du bien. On ne théorise pas assez les jeux vidéo d'horreur.
Et c'est paru où ?
Aux Presses universitaires de Rennes.
Très bien.
Mais ce n'est en rien un essai obtus. Au contraire, il est tout public.
Oui, hein, d'autant plus qu'on imagine que les jeux vidéo sont très carnés, très incarnés, totalement dématérialisés en même temps.
À mettre sous le sapin.
À mettre sous le sapin. Je me tourne vers le libraire Julien Lesquiera, non plus vers l'auteur. Qu'est-ce que vous recommanderiez de mauvais genre, attention, à nos auditeurs, monsieur le libraire.
Moi, j'aime un livre qui... Alors, est-ce que c'est du mauvais genre ? Je sais pas, mais quel est le livre de Wendy Delorme, qui chez Cambourakis, dont le titre m'échappe.
Ah. Et qui... Eh bien, bonjour, libraire !
une magnifique fable qui rend tous les éléments aquatiques vivants et qui leur donne la parole. Et c'est assez bluffant sur la façon de aborder ce sujet écologique avec une manière tout à fait originale, quoi.
Wendy Delorme, donc merci Julien Lesquiera pour cette recommandation. Xavier Mauvaisjean,
pour se faire du bien, se refaire du bien, relire Julio Cortázar. Ça ne fait jamais de mal.
En tout cas, ce qui ne fera jamais de mal à nos auditeurs, c'est de lire urgemment la semaine des 4 jeudis, donc de Xavier Mauméjean chez Alma Éditeur, avec le retour en gloire de Danaïs Nin et des extraordinaires personnages qu'elle a croisés dans Paris, Antonin Artaud, le docteur Alindy, ou encore William Seabrook, ou Henry Miller et sa femme June, et puis Julien Lesquiera, qui réinvente complètement la manière de parler, de promouvoir et de glorifier Marcel Proust avec ce roman qui tient à la fois de Polanski et de Buñuel. Les prix littéraires, c'est aux éditions Le Dilettante. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Nicolas Leroulé, Claire Poissignon, Claire Martin-Dugard, Fleur Hopkins-Leferon, Hubert Prolongeau et François Angelier vous remercient d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine où le Père Noël nous amènera Force Blu-ray et DVD. C'est l'émission donc cinéma de fin d'année.